Bonjour et bienvenue dans Culture Tonique. Aujourd'hui, nous sommes au musée de l'Ariana en compagnie de sa directrice, Madame Isabelle Neff-Galouba. Mais avant tout, nous démarrons en musique avec le duo Tim McGrew et Tyler Hubbard et Undivided.
See, Billy got picked on at school for things he couldn't change. He tried his best to play it cool, but in the seventh grade, you either fit right in or you don't fit. That's just the cold hard truth. I wish that I'd have been the friend that Billy never knew. I think it's time to come together, you and I can make a change. Maybe we can make a difference, make the world a better place. Look around and love somebody, we've been hateful long enough. Let the good Lord reunite us to this country that we love's undivided.
Yup.
You either go to church or you're gonna go to hell. Get a job and work or you're gonna go to jail. I just kinda wish we didn't think like that. Why's it gotta be all white or all black? And when we gonna learn to try on someone's shoes sometimes?
That's right.
When we gonna start to see from someone else's eyes? I think it's time to come together. You and I can make a change. Maybe we can make a difference, make the world a better place. Look around and love somebody, we've been hateful long enough. Let the good Lord reunite us to this country that we love's undivided. Oh yeah, undivided. Make the world a better place. Look around and love somebody, we've been hateful long enough. Let the good Lord reunite us to this country that we love, undivided.
Come on.
Oh yeah, undivided. Oh yeah.
You either go to church or you're gonna go to hell.
Oh yeah.
Bonjour Isabelle, vous nous recevez aujourd'hui au sein du musée de l'Ariana. Comment est-il né ?
Oui, bonjour. Le musée Ariana a été construit par un collectionneur privé, Gustave Revillot, qui en fait avait dépensé une bonne partie de sa fortune familiale pour collectionner pendant toute sa vie, depuis sa jeunesse, des œuvres de toutes sortes. Donc le musée est un petit peu le premier musée encyclopédique à Genève. Gustave Revillot avait d'abord engranger ses collections dans son hôtel particulier familial au sein de la vieille ville. Et puis, très rapidement, il avait une collection trop foisonnante qui l'a obligé à se décider pour la construction du musée. Il l'a baptisé Ariana pour honorer la mémoire de sa maman, Ariane Revillot de la Rive. Et il a fait de ce musée un musée exemplaire où il y avait aussi bien sûr de la céramique qu'il chérissait particulièrement, mais aussi de la broderie, du mobilier, des armes, de l'argenterie, des tableaux, enfin voilà. Il a légué le musée, les collections, son domaine à sa mort donc en 1890, légué à la ville de Genève. Et ensuite, les collections ont été réparties dans les années 30, donc 1930, après la création du musée d'art et d'histoire au centre-ville, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement, nous, hérité de la céramique et plus tard du verre et du vitrail, et le musée d'art et d'histoire a toutes les autres collections, ainsi que le musée d'ethnographie qui a aussi quelques collections qui le concernaient, donc de Revillaud. Donc voilà, monsieur Revillaud est un très grand mécène genevois du 19e siècle et a fait beaucoup pour la culture et le patrimoine genevois.
Vous citez le vitrail, on en parle très peu, puisque vous êtes surtout connu pour les céramiques. Pourriez-vous justement un petit peu développer cette histoire de vitrail ? Combien en avez-vous ? Est-ce que ça tient beaucoup de place au sein du musée ?
Non, effectivement, le musée est essentiellement un musée céramique, puisque c'est le 90% de notre collection qui est constituée aujourd'hui de céramique, qui va du 9e siècle jusqu'au 21e siècle. Hein. Une des particularités de la collection Ariana, c'est d'avoir plus de 5000 œuvres d'artistes contemporains internationaux. Mais le vitrail, effectivement, est une toute petite partie, même si c'est une partie représentative des collections et du vitrail suisse surtout. On a donc des vitraux, on en a environ 350, si je ne m'abuse, donc sur une collection de presque 28 000 objets au total. Donc effectivement, c'est une petite partie, mais d'une excellente qualité. Et on a là un projet avec le musée, le Vitrocentre de Romont, qui est vraiment le spécialiste du vitrail en Suisse, pour étudier notre collection dans son intégralité et en faire ensuite une exposition et une publication.
Nous retrouvons Madame Isabelle Neve Galouba après une pause musicale avec Luke Bryan et Where Are We Going? Votre musée est également, donc, comme vous le dites, l'histoire de la céramique. Comment arrivez-vous, au sein de ces céramiques et porcelaines, à raconter cette histoire de la céramique ?
Alors, on essaie de raconter plusieurs histoires à la fois, parce que le médium céramique est fantastique et déjà c'est une expression millénaire, hein, qui vient ouais, de manière très antérieure se positionner. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de raconter de manière chronologique, mais pas seulement, avec des thématiques aussi. Donc, par exemple, toutes les salles peuvent se visiter selon un parcours prédéfini avec un audio guide ou pas du tout. On peut aussi se lancer dans la salle de la porcelaine européenne ou découvrir d'abord la salle de la faïence. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye justement de proposer aux visiteurs de commencer par la salle de la faïence, puisque en fait la faïence est une technique céramique ancienne. La première technique, c'est celle de la terre cuite, c'est-à-dire au moment où on cuit de la terre, mais où elle n'est pas encore revêtue d'un vernis quelconque ou d'un émail qui fait qu'elle n'est pas étanche. Et puis ça arrive justement au 9e siècle avec les cultures arabes qui vont inventer la faïence, donc une terre cuite qui sera recouverte d'un émail à l'étain, un émail stannifère qui permet de justement rendre la céramique étanche. Et voilà, comme ça, au travers des salles, on avance dans les techniques, dans leur propagation aussi, comment cette technique de la faïence est arrivée en Europe, d'abord par l'Espagne avec les conquêtes arabes, puis ensuite comment elle s'est propagée en Italie, puis en France, comment elle a été perfectionnée à chaque fois, comment on a fait des nouvelles découvertes. Donc voilà, on essaye dans chaque salle d'expliquer un petit peu chaque technique, mais aussi chaque influence et échange commerciaux, historiques, sociologiques, comment les artistes ou les artisans se sont influencés les uns les autres en échangeant leurs secrets de fabrication. Et on va comme ça vers la porcelaine, vers l'Orient-Occident, qui est un point très important pour le musée, puisque c'est une de nos forces avec la porcelaine d'exportation, justement, par la Chine et le Japon, vers l'Europe. Voilà un petit peu comment on raconte ces histoires céramiques. Il y en a vraiment beaucoup. Elles sont infinies.
Votre musée est en fait, vous me disiez, des expos permanentes, mais des expos permanentes qui deviennent temporaires, puisque dans les temporaires, vous ne vous servez que de vos propres pièces, qui sont sans doute dans les réserves. Actuellement, vous avez 3 expos temporaires. Pourriez-vous nous en parler, et plus particulièrement celle exprimant le Japon ?
Alors, effectivement, le programme d'exposition temporaire, donc, il est très diversifié, puisqu'on essaye de faire des expositions de différents formats, grandes expos, moyennes, plus petites, et aussi de manière temporelle, des expositions qui vont durer presque une année, ou parfois, au contraire, 5 mois ou 3 mois. On peut avoir des installations d'artistes, ou, comme vous le dites, justement, on va utiliser les collections, nos propres collections, qui sont en effet dans les réserves. Cette exposition Japon, c'est le 4e volet justement d'un cycle qu'on appelle l'Ariana sort de nos réserves, sort de ses réserves, pour pouvoir justement aborder une thématique et un pan entier de la collection. Donc le Japon, c'est la 4e fois qu'on fait une étude très complète et assez longue dans la durée de notre collection, puis qu'avec l'aide d'experts, de spécialistes, on crée justement le discours autour de cette exposition, et on a une grosse publication qui va sortir au tout début du mois de janvier. On l'a fait déjà aussi avec Terre d'Islam en 2014, avec Schnaps et Rösti, notre collection de poterie suisse et de verre émaillé suisse du XVIIe au XIXe siècle. Et puis au tout début, on l'avait fait il y a déjà maintenant plusieurs années avec la faïence française. Donc voilà, on essaye d'explorer les collections tout en les étudiant, pour que la connaissance au sujet de ces collections et de ces objets puisse avancer.
Nous retrouverons Madame Isabelle Neve Galouba après Miranda Lambert et Settling Down.
Should I look for rainbows or wait for the rain?
pour mettre en valeur certaines de vos collections, ou tout au moins un joli clin d'œil, vous sortez un livre de cuisine de vos collaborateurs, tout au moins ce sont les recettes de vos collaborateurs. Comment avez-vous su mettre en valeur les porcelaines qui sont à l'intérieur ?
Alors cette idée, en fait, elle est venue avec le premier confinement. Donc on travaille beaucoup en équipe au musée Ariana. Chacun a sa place et chaque métier a son importance. Et on aime effectivement partager beaucoup d'idées et beaucoup de choses dans le quotidien et dans la manière dont on construit l'Ariana ensemble et son programme et ses activités. Et ici, on a demandé à chacun des collaborateurs et des collaboratrices de nous donner leur recette préférée et de l'associer avec justement un objet de nos collections. Et ça, c'était formidable parce que chacun a son objet qu'il aime beaucoup ou dans lequel il aurait toujours envie de voir servi son plat préféré. Et puis de partager ça avec le public dans un petit livre de recettes, ça nous semblait une idée sympathique. C'est vrai que ça a amené beaucoup de bonne humeur pendant cette période. Et puis, ça fait un joli cadeau de fin d'année aussi. On le vend dans notre boutique, notamment. Et bien sûr, ça nous fera du temps pour essayer toutes les recettes à l'intérieur. Bien sûr, on ne peut pas servir les recettes dans la réalité, dans les collections, pour des raisons de conservation. Mais de ce fait, ça amène du rêve autour des collections, dans l'esprit de chacun. Et quelque chose de bon dans nos estomacs, ce qu'on apprécie fortement toujours.
Une courte pause musicale et c'est Clay Walker.
They smell like smoke from the night before. Rough and ragged, and dusty and worn. Empty pockets coming apart at the seams. I guess you could say these jeans are a lot like me. Beat down collar, rolled up sleeves. Pocket scarred from a smoking ring. Ain't afraid of a little sweat. It was made to never quit. The shirt and me, we got a common thread. So why would I change something that feels so good to me? Whatever life brings, you can bet I'm gonna be the same. That's what I am all the way till the day that I die. Why would I change? Now, I'm not every woman's dream. But then again, I never tried to be. I'm just a man, not a saint. I'll never be what I ain't. And she likes me that way. So why would I change something that feels so good to me? Whatever life brings, you can bet I'm gonna be the same. That's what I am all the way till the day. Why would I change something that feels so good to me?
whatever life brings, you can bet I'm gonna be the same. That's what I am all the way till the day that I die. Why would I? That's what I am all the way till the day that I die. Why would I change?
Organise aussi de nombreux ateliers. Pourriez-vous nous parler un petit peu de ces ateliers et à quel public s'adressent-ils ?
Alors au Musée Ariana, on apprécie beaucoup de travailler avec beaucoup de publics différents. Et puis, donc on va effectivement faire bien sûr différentes visites chaque fois autour des expositions, mais aussi des ateliers où le public peut mettre la main à la pâte. Donc on peut avoir aussi bien des ateliers famille qui réunissent des enfants avec un ou deux membres de la famille, que ce soit leurs parents, leurs tantes, leurs grands-parents, leurs frères, leurs sœurs. Donc ça, c'est assez joyeux. C'est toujours, on ne peut pas faire de la céramique même parce qu'on n'a pas de four, on n'a pas tout l'équipement, mais on va faire des succès d'année où on va proposer aux personnes voilà, de modeler de la terre ou de peindre une pièce. Et puis ensuite, on travaille bien sûr avec des professionnels qui dirigent ces ateliers, qui sont des médiateurs et des médiatrices culturelles et aussi des céramistes et d'autres professionnels, et qui vont ensuite terminer les pièces, par exemple les cuire chez eux, pour pouvoir ensuite les redonner aux personnes qui ont participé. On peut avoir aussi des ateliers pour les seniors. On a des EMS qui viennent volontiers faire des activités sympathiques. On a aussi des ateliers, bien sûr, pour les enfants pendant les vacances scolaires, ou encore, on a été les premiers à faire des ateliers pour les tout-petits de 2 à 4 ans. Et ça marche formidablement bien aussi. Ils sont tout à fait ravis. Et on est toujours étonnés de voir que les petits ne regardent pas du tout la même chose que nous quand on essaye de leur montrer, par exemple, une porcelaine ou un motif décoratif sur une œuvre. En fait, eux, ils regardent la veine dans les colonnes en marbre ou bien le sol avec la mosaïque. Et c'est vraiment très amusant parce que grâce à ça, on apprend aussi, nous, des choses à travers nos publics.
Concernant les visites guidées, comment se passent-elles ? Faut-il s'inscrire ou est-ce qu'elles sont ouvertes à tout le monde ?
Alors, il y a différents formats. On a bien sûr des visites qui sont publiques, gratuites et ouvertes à tout le monde. Donc là, si vous regardez sur le site du musée ou dans les flyers des expositions, on a les dates des visites publiques prévues. On peut bien sûr aussi réserver une visite pour soi, une visite privée pour un groupe, pour sa famille, pour des amis. Là, ce sont des visites payantes avec nos médiatrices culturelles ou avec le ou la commissaire de l'exposition. Et puis, on a justement autour des ateliers des formules qui comprennent à la fois des visites suivies d'un atelier. Donc, on explique le musée, on explique les expositions et ensuite on peut soi-même de nouveau faire une activité créative. On a des visites tout aussi bien autour des expositions temporaires du moment que sur les collections du musée, notre exposition de référence. Donc on peut choisir des thématiques, il y a tout un panel possible.
Concernant vos lectures, hors votre travail, vous avez choisi de nous parler du livre d'Alexandre Lecoultre, Peter und so weiter. Pourquoi ce livre ?
Alors, d'abord parce que je suis en train de le lire. Je n'ai pas terminé ce livre absolument magnifique et qui m'a complètement envoûté dès les premières pages. C'est un livre formidable parce que, d'abord, il raconte une histoire d'un homme un petit peu original et marginal dans un village. Mais c'est raconté d'une manière à la fois très poétique et très naturel, où on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, de vivre le quotidien des personnages du livre. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le langage et l'écriture sont tout à fait originaux aussi, c'est-à-dire que c'est en français, mais il y a beaucoup de Schweizerdeutsch dans le livre, avec des mots. Et puis, C'est amené de manière de nouveau très musicale, chantante, et même si on ne comprend pas forcément le mot, on comprend l'émotion, on comprend la sensation, on comprend l'idée qui se dégage du tout. Et Alexandre Lecoultre, là, réussit vraiment un tour magistral, parce qu'à la fois, il mélange le suisse roman, le Schwitzertutsch, mais il recompose des mots. Donc, voilà, il va dire « erfrischen » pour se rafraîchir, et ensuite « réchauffen », et voilà, il va vraiment mixer, en fait, des mots, et c'est vraiment une lecture formidable, et ça faisait longtemps que je n'avais pas découvert un si beau livre, plein de poésie et plein de tendresse et d'humour à la fois.
Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir donné envie de lire ce livre. Nous terminerons notre émission en musique avec les Old Dominion et Some People Do.
I know you're hurt, I know it's my fault, but I've kept I'm sorry locked in a vault. I know that time just keeps going on, and words by themselves can't right all the wrongs. In a world that's gone crazy, you don't know what's true. Most people don't change, but some people do. Some people quit drinking too much, and some people quit lying. Some people decide to grow up, but it's never good timing. Most wouldn't forgive what I put you through, but I'm here tonight, hoping some people do. Some people say sorry to hear it's okay, but I know it's not, so you don't have to say that you understand, 'cause I know you don't, and neither do I, and that don't mean that I won't try every day to show you the truth. Most people don't change, but some people do. Some people quit drinking too much, and some people quit lying. Some people decide to grow up, but it's never good timing. Most wouldn't forgive what I put you through, but I'm here tonight, hoping some people do. So whether you kiss me or you close the door, just know that I'm better than I was before. Some people quit drinking too much, and some people quit lying. Some people decide to grow up, but it's never good timing. Most wouldn't forget what I put you through, but I'm here tonight, hoping some people do. Hoping some people do.
Chers auditeurs, c'était Nathalie Rendu au micro de Culture Tonique. Je vous rappelle que je vous retrouve tous les mercredis à 10h, le vendredi à 19h ou sur les podcasts. Merci de votre écoute et rendez-vous à mercredi prochain, 10h.